Histoire de la côte.
Bienvenue à Histoire de la côte. Mon nom est Alain Roy et je suis directeur artistique au Théâtre populaire d'Acadie, une compagnie de théâtre qui a pignon sur rue à Caraquette, dans la péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick. Tout jeune, j'ai été fasciné en lisant les histoires de M. Antonin Friolet dans le livre « Caraquette, village au soleil ». Contes, légendes, récits de toutes sortes font partie de notre imaginaire et de notre patrimoine. Mais voici des histoires qui, bien que romancées par M. Friolet, reposent toutes sur des faits historiques. Elles se sont déroulées le long de nos côtes. Je vous invite à les découvrir par la voix de nos comédiens et comédiennes, agrémentés de captivantes mises en contexte par nos historiens et, à la fin de chaque histoire, des invités spéciaux qui viennent enrichir ces récits incroyables, bien que réels. Bonne écoute!
Épisode 2.
Le triangle tragique. Une forte brise du nordais bruissait dans les cimes des arbres et les goélands, plongeant dans un froissement d'ailes dans le chenal qui sépare l'île de Caraquette de la terre ferme, déchiraient l'air de leurs cris plaintifs. Aucun murmure ne venait troubler la clairière ensoleillée protégée des vents du nord par les arbres altiers. Cette année-là, le printemps était plus avancé que de coutume. Le chenal était presque exempt de glace et le bétail, ici et là, paissait l'herbe qui commençait à verdir. Il était encore trop tôt pour ensemencer et cultiver les champs ou poser les filets et les trappes à homards dans la mer qui, dans sa largesse, nourrissait les habitants de ces lieux. Dans le laps de temps où la nature se renouvelle et comme par enchantement renaît à la vie, les hommes s'affairaient à de menus travaux dont plus tard ils ne pourraient s'occuper. Ils réparaient les bâtiments, rapiéçaient les clôtures, radoubaient les bateaux ou préparaient leurs agrès de pêche.
L'île de Caraquette, située à quelques kilomètres au large du quai de l'endroit du même nom, est de nos jours inhabitée.
Clarence Le Breton, historien.
D'une superficie de 260 hectares, elle est recouverte d'une forêt mixte de conifères et de feuillus, battue par les vents, surtout de l'est, lorsque vient l'automne et l'hiver avec ses tempêtes. Du côté nord de l'île, nous apercevons deux échancrures, donnant l'aspect de deux minuscules baies que les anciens appelaient la Grande et Petite Échouerie. Du côté sud, plus à l'abri, c'est l'endroit privilégié pour les amateurs de bateaux de plaisance, pour la baignade et pour les plus téméraires, le camping, où les maringouins ne manqueront jamais de rendre l'expérience éprouvante. C'est en 1820 que, pour la première fois, l'île sera habitée de façon permanente. Marcel Martin, vétéran de la guerre de 1812, qui s'était signalé à la bataille de Châteauguay, était venu à Caraquette quelques années plus tard pour y faire commerce. Suite à de mauvaises affaires, il est contraint de quitter le village et de s'installer sur l'île où il repart à zéro. Il était maçon de profession et tout porte à croire qu'il fut responsable des travaux de maçonnerie de la première église de Caraquette, construite entre 1817 et 1820. D'après un récit des naufrages survenus entre 1853 et 1854, nous apprenons que l'île est habitée par quelques familles, dont celle d'Xavier Paulin. Le recensement de 1871 nous précise la présence de ces familles établies sur l'île dans les familles Baudin, Duguay, Paulin, Gallien, Moret et Jeunet. Leur présence sur l'île n'est pas par choix. Dépourvue de moyens d'acquérir une propriété sur la terre ferme, l'île est la seule solution que s'offre à ces familles. Vivant de pêche et cultivant un petit lopin de terre, ils subsistent plus qu'ils vivent.
L'enthousiasme communiqué par le spectacle renouvelé des saisons faisait défaut à Xavier Paulin. Depuis quelque temps, la conduite de sa femme Angèle éveillait des doutes dans son esprit, ce qu'il mettait à la torture. Elle était d'une humeur plus difficile que d'habitude, ses réparties blessantes lui mettant les nerfs à vif. Et pourtant, il se montrait très patient à son égard et lui était très indulgent, car elle était bonne ménagère et s'occupait bien de ses trois enfants, les derniers-nés de nombreux enfants qu'elle avait eus. Xavier avait quitté la maison vers 10 h du matin, le lundi 20 avril 1874. Il s'en était allé au bois déblayer un chemin afin d'y sortir les lisses dont il se servirait pour réparer ses clôtures. Là, au fond des bois, régnait la paix et le silence à peine troublés par le cri des goélands infatigables et le croassement d'une corneille qui, tout près, avait trouvé un lièvre mort pris au collet et s'en nourrissait avidement. Il s'assit sur un tronc d'arbre et alluma sa pipe, tout en humant à plein poumon la riche odeur des bois. C'était une belle journée de printemps. Ici et là brillait de la neige. La terre était prête à montrer sa parure de bourgeons et de fleurs sauvages, et la mer a donné sa récolte. Il songeait à Angèle, se demandant si son humeur irascible n'était pas attribuable aux nombreux enfants qu'elle avait mis au monde. Comme lui, elle avait 43 ans, mais c'était encore une femme désirable, subissant sans doute les changements qui se manifestent dans la vie de toute femme à un certain âge. Ou peut-être encore était-elle enceinte? Dans la grange de Boiron, au milieu de la clairière familiale, Olivier Gallien avait aussi l'esprit troublé. Le cri des goélands qu'il aimait tellement entendre lui semblait de mauvais augure ce jour-là, tout comme le croassement de la corneille qu'il avait chassé d'un caillou et dont il entendait encore le cri rauque. À la façon des gens simples, Olivier était épris de ce décor, de cette île tranquille qui lui donnait plus qu'il n'avait osé espérer. Il était entouré de la mère qu'il aimait à la passion et de l'attention d'une femme après une si longue attente. Il avait maintenant 32 ans. Sans cette attirance physique indispensable à l'homme pour conquérir le cœur des belles. Voilà pourquoi il n'avait pu gagner l'attention, encore moins les faveurs des filles de sa connaissance. On le considérait un peu drôle et ses chances de se trouver une compagne pour la vie diminuait avec le passage des ans qui en faisait un célibataire sans espoir matrimonial. Le titre de vieux garçon avait une résonance désagréable, chez les femmes surtout. Il parcourut de son doigt la lame du couteau qu'Angèle avait aiguisé pour lui, mais le croassement de la corneille le fit sursauter et il s'infligea une légère coupure au doigt. « Maudite corneille !» cria-t-il, tout en enfonçant le couteau dans un billot. « Il doit y avoir une meilleure solution, » pensa-t-il. Et sur ce, il sortit de la grange et tourna instinctivement la tête vers le chemin qu'avait pris Xavier. Angèle sortit de la maison et se rendit au bûcher chercher des copeaux pour attiser son poêle de cuisine. Cette femme n'avait pas la beauté qui attire les regards admirateurs, mais elle possédait quand même un certain charme. Elle était très petite, d'une hauteur de 5 pieds et 1 pouce, avec des hanches qui révélaient la naissance de plusieurs enfants, des cheveux d'un brun foncé serré à la nuque, des yeux noirs qui cachaient une certaine malice, un assez beau petit nez, mais une langue à la fois piquante pour fustiger et envoûtante pour charmer et séduire. Elle leva soudain la tête, et ses yeux insondables croisèrent ceux d'Olivier, alors qu'il contemplait le bois. Même la corneille qui vola près d'elle en lâchant son cri strident ne put la distraire de la pensée qui dominait tout son être. Il fallait que ça se produise ce jour-là. Le couple demeurait depuis longtemps sur l'île de Caraquette, située à près d'1 kilomètre de la terre ferme. Les plus âgés des enfants avaient laissé le toit familial. Les filles pour se marier ou travailler comme servantes de maison, et les garçons pour travailler dans le bois, sur la ferme ou à la pêche selon les besoins de l'époque. Il restait 3 petits-enfants à la maison, et il se pouvait fort bien qu'un autre s'annonçât. Olivier, ouvrier itinérant, vivait avec cette famille depuis 2 ans. Le mari lui prodiguait beaucoup d'indulgence en raison du fait qu'il n'était pas tout là. Angèle était si éprise de cet homme, plus jeune qu'elle de 11 ans, qu'elle ne cessait de le supplier d'attenter à la vie de celui à qui elle avait juré une fidélité éternelle au pied de l'autel. Un jour, elle avait aiguisé un couteau en implorant Olivier de s'en servir quand l'occasion se présenterait, dans les bois ou dans le sommeil de son mari. Mais Olivier ne pouvait perpétrer l'horrible dessein, et cette femme fatale lui reprochait sa lâcheté, sa couardise et l'affublait d'épithètes injurieuses. Cette fois, encore accablé d'injures et sous l'emprise de cette femme dont la seule présence le subjuguait, il se réfugia dans cette grange pour retrouver son calme perdu.
En 1871, le gouvernement fédéral se porte acquéreur de 126 hectares à la pointe de l'ouest de l'île où il fait ériger un phare. Thomas Kerr en fut le premier gardien et habitait le fort avec sa famille. Tout au cours de son histoire, les habitants de l'île furent témoins et parfois victimes de plusieurs tragédies. Le 14 octobre 1872, le fils du gardien du phare, Archie Kerr, et son ami, Simon Ahern, se noie lors d'une traversée à l'île. Thomas Kerr lui-même connaîtra le même sort. Surpris par un coup de vent, en fin d'après-midi du 13 juin 1873, la chaloupe chavire entre l'île et la terre ferme. Son corps sera retrouvé le lendemain, et c'est son épouse, Mary Blackall, qui assumera le gardiennage du fort pour le reste de la saison de 1872. Faisant d'elle la première femme gardienne de phare au Canada. Le successeur de Thomas Kerr, Narcisse Paulier, sera aussi victime des flots le 2 octobre 1876. Ces nombreuses noyades nous indiquent que la traversée vers l'île et vice-versa était parfois périlleuse. Le printemps avec la fonte des glaces et l'automne avec ses grands vents étaient les saisons les plus dangereuses. Lorsque la maladie frappe l'un des habitants de l'île, et qu'il faut se rendre sur la terre ferme. Souvent, la traversée se fait dans des conditions difficiles et cause beaucoup de soucis et d'inquiétudes pour ceux et celles de la famille demeurée sur l'île. Vivant dans de modestes demeures, c'est dans l'une d'entre elles que va se tramer une autre tragédie.
Angèle était retournée à la maison pour préparer le repas de midi, tandis qu'Olivier se rendit au bûcher. Un frisson s'empara de son être à la vue de la hache à 2 taillants plantée dans la bûche dont il se servit quand même pour couper un rondin. Il lui fallait ce rondin pour le soutenir dans sa marche affaiblie par les reproches d'opprobre et les remords qui lui rongeaient l'âme, et il se dirigea là où était allé son employeur Xavier Paulin. Le mari d'Angèle était assis sur un billot et fumait la pipe, sans se douter de la perversité de son épouse et des complots ourdis contre lui. Il reconnut la démarche familière d'Olivier, mais ne leva pas la tête, continuant à fumer paisiblement et à balayer avec une branche de sapin les feuilles mortes tapissant le sol à ses pieds. Soudain, un coup de rondin lui fut asséné sur la tête, mais l'épaisseur de sa tuque de laine amortit l'effet. Il se leva aussitôt, étourdi, le regard aveuglé par la violence du choc, et s'engagea dans une lutte à mort avec son assaillant, l'implorant de cesser cette folie et d'avoir miséricorde pour l'amour de Dieu. Mais Olivier avait perdu la raison. L'influence néfaste de cette femme sur son être l'ayant conduit à accomplir cet acte horrible. En plus d'une attaque sournoise, il avait l'avantage d'être plus jeune, plus lourd et plus fort. Ayant laissé échapper son rondin, il continua à marteler Xavier de ses pieds et de ses poings jusqu'à ce que celui-ci cesse de respirer dans la douceur indicible de cette belle journée de printemps. Le chien de la famille déambula sur la scène de la tragédie, furetant ici et là et flairant de son museau le corps immobile de son maître, s'accroupissant sur ses hanches près de lui et faisant entendre les gémissements d'un animal fidèle en présence du malheur. La corneille apparut et lâcha des cris rauques qui ramenèrent Olivier à la réalité. Il avait tué un homme. Il voulut donner un coup de pied au chien qui, le poil hérissé, lui montra les crocs et grogna rageusement. Il lança une volée de jurons à ce passereau qui, soudainement, avait disparu. L'âme tourmentée par un sentiment de culpabilité et de remords, troublé et confus, il s'en alla sur des jambes chancelantes vers la maison. Angèle ne leva pas les yeux, continuant à faire son petit ménage. Olivier changea d'habit, se lava en vitesse et traversa le chenal à la rame pour se rendre au magasin de Philip Reeve à Caraquette, où il avait l'habitude d'aller souvent, tandis que l'instigatrice du crime, restée sur l'île, cacha ses habits souillés de sang pour les laver et les raccommoder plus tard. Le soleil dardait ses derniers rayons de l'après-midi et l'ombre des bois envahissait quelque peu le sentier sinueux qui menait d'un voisin à l'autre lorsqu'une jeune fille décida d'aller casser la croûte et bavarder avec Angèle. Elle faillit tomber sur un cadavre étendu par terre et la première pensée qui vint à Marie fut celle de quelqu'un qui avait bu trop de bière du pays. Lorsqu'elle se pencha pour examiner de près ce cadavre, elle reconnut son frère dont le visage était ensanglanté. Le chien, couché à plat et gémissant, montait la garde près de son maître. Elle sursauta de surprise et poussa un cri d'horreur qui se mêla à celui des goélands, au croissement des corneilles et au jappement des chiens de l'île. Marie releva sa jupe pour courir plus vite et parvint à la maison de son frère où elle raconta, toute haletante, toute bouleversée, ce qu'elle avait découvert. Angèle, cependant, ne manifestant aucune surprise ni aucune douleur au récit, pria sa belle-sœur d'aller chercher Julien Moret, un voisin, pour ramener le corps de son mari à la maison. Tout cela se passait environ 6 heures après le crime, vers les 5 heures de l'après-midi, au moment où arrivait Olivier de sa tournée à Caraquette. Pas le moins du monde troublé et faisant mine de ne rien savoir, Olivier aida Julien Moret à transporter le corps de la victime à la maison. Mais pas sans que le chien, le poil hérissé, grognant de rage, ne lui entre les crocs dans les souliers de peau, les mocassins. La corneille, perchée sur le pignon de la maison, fit entendre ses cris rauques. Et l'espace d'un instant, Angèle se sentit saisie de frayeur et son courage faiblit. Sur la terre ferme, les lampes à l'huile et les chandelles brûlèrent tard dans la soirée du 20 avril 1874. Le bruit de la tragédie s'étant répandu tel un feu de broussailles par tout le village. James Blackhall, maître poste à la fois officier de douane, juge de paix, président de la commission scolaire, coroner, ne tarda pas à se rendre à l'île où déjà tous les voisins et bon nombre de curieux de la terre ferme s'étaient attroupés. Olivier, devant cette foule de gens dont les regards seuls l'accusaient du méfait, ne put se contenir et avoua son crime, tout en blâmant la petite Angèle de l'avoir poussée à cet acte. Angèle nia catégoriquement cette accusation et fit remarquer à qui voulait l'entendre qu'elle avait eu beaucoup de difficultés à repousser les propos séducteurs d'Olivier. Elle en avait même averti son cher mari. « Si seulement il m'avait cru !» de gémir la misérable femme, se saisissant la tête et se tordant les mains. Olivier Gallien et Angèle Paulin furent conduits le soir même à Middle Caraquette, où ils passèrent 3 jours incarcérés dans la maison de Gustave Lantaigne, en attendant l'arrivée des constables sommés de Bathurst. Olivier avait essayé de s'évader, et on finit par le trouver blotti dans un coin sombre du grenier de la maison. Quant à Angèle, elle ne se lassait pas de réciter toute une litanie de reproches et d'accusations et de gémir sur le sort de ses pauvres petits-enfants, maintenant seuls et privés de leur mère. On partit pour Bathurst tôt le samedi 25 avril, dans deux voitures tirées chacune par un cheval. Les constables Gionnet et Légère étaient dans la première voiture, suivis d'Olivier, corde au cou, qui courait ou marchait selon les caprices du cheval. Il était souvent traîné quand il tombait et, peut-être heureusement pour lui, les routes du printemps étaient fort mauvaises. De la neige ici, de la boue là, des ornières profondes et vaseuses, ce qui fatiguait et ralentissait le cheval. Angèle suivait dans l'autre voiture, attachée à l'arrière du siège, sous l'œil malin de Black Hall qui, semblait-il, ressentait une grande satisfaction. Le premier soir, on se rendit jusqu'à Grand-Anse, pas encore à mi-distance de Bathurst, et les inculpés furent logés dans une grange sous la surveillance des deux constables qui se relevèrent durant la nuit. Black Hall, lui, couchait bien au chaud dans la maison de l'un de ses amis. Le lendemain, on reprit la route. Olivier était dans un état pitoyable. Les pieds empoulés, ensanglantés, enflés à tel point qu'il ne pouvait ôter ses mocassins. Le corps lui faisant tellement mal qu'il ne demandait pas mieux qu'on l'exécute sur le champ. Il expiait son crime, semblait-il, avant d'avoir été jugé. Tard dans l'après-midi, on parvint jusqu'à Salmon Beach et Olivier n'en pouvait plus. Pareil logement dans une grange pour les accusés et les constables, pareil logement au chaud chez un ami pour Black Hall. Le Moniteur acadien, le seul hebdomadaire acadien de l'époque, publié à Shediac, notait dans son numéro du 30 avril 1874 que le groupe était arrivé à Bathurst le lundi 27 avril et que les deux accusés avaient été livrés au shérif de l'endroit.
À l'époque, les causes criminelles étaient entendues par une cour itinérante qui se rendait dans le comté qu'une ou deux fois par année. Les cours dites civiles étaient par ailleurs entendues par les juges de paix de chaque village. C'est ainsi que le 3 septembre, au matin de 1874, s'ouvre le procès d'Olivier Gallien, accusé du meurtre d'Xavier Paulin. C'est sans surprise que les délibérations se déroulent en langue anglaise et que l'accusé Olivier Gallien n'y comprend pas un mot. Plusieurs témoins sont appelés à la barre par le procureur Frederick Morrison de Saint-Jean, y compris Philip Reeve, Robert Young, Céline Gallien, Rose Duguay, habitante de l'île, et Justine Paulin, fille d'Xavier et d'Angèle. Les avocats de la défense, James McManus et Joseph Barbery, n'appelant aucun témoin, et tout porte à croire qu'Olivier était condamné d'avance.
Les prisonniers languirent en prison pendant plus de 4 mois, jusqu'à jeudi 3 septembre, où ils furent traduits devant le juge de la cour criminelle de Gloucester, l'honorable John Wesley Weldon. Olivier observait un silence de plus en plus profond, tandis que la grossesse d'Angèle devenait de plus en plus visible. Le procès dura 2 jours, et les accusés, parce qu'ils ne connaissaient pas l'anglais, n'avaient pas pleine conscience de ce qui se passait. Olivier fut déclaré coupable, mais le jury était partagé sur le sort d'Angèle. 3 jurés voulaient l'acquitter. Le verdict fut rendu tard dans l'avant-midi de samedi. À 11 heures, le juge prononça en anglais la sentence de mort aux 2 accusés. Olivier serait pendu le jeudi 29 octobre 1874 et Angèle le 5 janvier 1875, après la naissance de son enfant. Presque jusqu'à la fin, Olivier conserva une grande réticence et ne voulut parler à personne. Il refusa même les services religieux du père Carter, curé de Bathurst. Mais il pleura à chaudes larmes lorsqu'il fut visité par le père Joseph Pelletier, curé de Caraquet. Il éprouva alors un changement radical et ouvrit son cœur à celui qui lui avait souvent donné l'absolution. Ce dernier écouta sa confession et le prépara à rencontrer son Créateur. Olivier ne semblait pas comprendre la gravité de la situation ayant un appétit vorace, qui s'apaisa néanmoins au cours des 15 derniers jours alors qu'il laissait intacte une bonne partie des mets qu'on lui apportait. Son esprit, qui n'avait jamais été bien solide, semblait avoir cédé à l'imbécilité. Sa volonté l'avait abandonné. Mais vers la fin, il semblait avoir accepté son destin, puisqu'on l'a aperçu dansant au son d'une mélodie que sifflait un des ouvriers occupés à ériger la potence dans la cour de la prison. Angèle, depuis son incarcération, ne faisait que gémir et pleurer. Cependant, depuis son procès, elle devenait plus calme et conversait de bon cœur avec ceux qui la visitaient, surtout si on la laissait parler à sa guise et avec la volubilité qui lui était coutumière. Elle proclamait toujours son innocence et en appelait aux sympathies de ses visiteurs en disant combien il était cruel de l'arracher des soins de son ménage et de ses enfants. Elle donnait en même temps libre cours à son chagrin, sanglotait et s'apitoyait sur son sort. La veille de l'exécution d'Olivier, elle demandait à le voir pour savoir s'il avait quelque rancune contre elle. Conduite à sa cellule, elle lui demanda « Olivier, m'accuses-tu toujours d'être la cause de ta pendaison ?» Ce à quoi le condamné répondit « Le bon Dieu arrangera tout ça. » Il refusa de lui parler plus longtemps. À 8 heures précises, le lendemain matin, la cloche de la prison se fit entendre et le drap noir fut hissé. Le prisonnier, suivi des curés Carter et Pelletier et du shérif, sortit de sa cellule et se rendit à la potence, en répétant à haute voix et à plusieurs reprises « Mon Père, mon Dieu, miséricorde !» Il demanda ensuite pardon aux personnes présentes et répéta les prières que récitait le père Pelletier. Le moment solennel était enfin arrivé. Encore quelques instants, et son âme, lavée de son crime par le sacrement de la pénitence, allait quitter son corps. Une colombe blanche, venant, on ne sait d'où, battit de l'aile et s'envola dans le ciel clair de l'automne. Ce à quoi le père Pelletier murmura tout bas, « Bienheureux les simples d'esprit, car le royaume des cieux leur appartient. » C'était au cours de la première semaine de décembre qu'Angèle donnait naissance, en prison, à un garçon. Le moniteur acadien ne précisait pas le jour, ni ne donnait aucun autre détail. Nous ne savons rien de l'enfant, puisqu'il fut adopté à la naissance. Le premier Noël d'Angèle en prison ne fut pas absolument malheureux, puisque ce jour-là, on lui fit savoir que la sentence de mort prononcée contre elle avait été commuée en un emprisonnement à vie. Le 12 février 1875, Angèle Paulin fut envoyée au pénitencier de Saint-Jean où elle fut inscrite au registre sous le matricule 27. Elle y resta jusqu'au 13 octobre 1880, puis elle fut transférée au pénitencier de Dorchester. Son dossier aux deux institutions était bon. Évidemment, sa conduite et son comportement étaient irréprochables, puisqu'en moins de 6 mois de sa première admission à Saint-Jean, elle se voyait transférée dans des quartiers du pénitencier moins restrictifs. Enfin, elle reçut le plein pardon le 7 juillet 1885 après avoir passé 10 ans et 6 mois derrière les murs gris des pénitenciers. Angèle revint au comté de Gloucester où elle était l'objet, tous les ans, d'une vente des pauvres qui l'obligeait souvent à aller demeurer dans une famille différente. Elle vivait une existence misérable. Un objet de curiosité et d'injure pour ceux qui voyaient dans ses yeux rougis par les larmes les feux de l'enfer ou la méchanceté du diable incarné. Lorsqu'elle mourut en 1912 à l'âge de 80 ans, elle vivait avec la famille de Docité Chiasson de Chiasson Office dans la paroisse de Chipagan. Reniée et abandonnée par sa famille et ses enfants, elle était souvent assujettie à un surcroît de travail qu'on lui imposait en raison du fait qu'elle avait été achetée par la famille qui acceptait de la garder au coût le plus bas acquitté par la municipalité. La pauvre femme supporta sa culpabilité et sa honte pendant 38 ans, dans l'agonie incessante d'être vue en public ou à l'église en raison des regards hostiles, des insultes méchantes et des remarques malveillantes qui accompagnaient chaque pas de sa vie jusqu'à sa mort. Elle a vécu et subi une véritable expiation constante de sa complicité dans un crime engendré par la plus naturelle des faiblesses humaines, la passion. Et sa mort, à la vue des hommes, était celle d'une vieille corneille qui avait râlé son dernier cri. Mais dans le cœur des plus charitables, la paix, enfin, dans la blancheur symbolique de la colombe.
Jean-Hugues Viennot, né en 1927, a vécu son enfance sur l'île de Caraquet.
Moi, j'ai venu au monde chez mon grand-père Giennet. Pierrot Giennet, qu'il appelait. Il cite, là. Pour moi, à peu près comme un mille de cite, je vois. Puis tant qu'on a traversé l'île, ben, mon père restait là, l'île, ben, tant que mon moment avant qu'elle a couché, ben, là, elle a mis ce côté-ci, ben, elle a couché là, c'est ma grand-père. Puis tant que j'ai traversé l'île, j'avais 40 jours. C'est pas moi qui menais le doré, là. Avec un doré avec des voiles, là, ce temps-là, il y avait une voile qui gouvernait un arrière avec une rame. Et puis, il est supposé qu'il ventait. En fait, je me disais, non, j'ai fait ma petite vie à Lille, jusqu'à l'âge de 13-14 ans, je pense que je suis venu par ici, tu savais? 13 ans, j'avais 12 ans. Dans le temps qu'on était là, bon, que je m'en rappelle, là, il y avait une mise haute. Puis il y avait le monsieur qui tenait la lettre, M. de Robert. Puis il y avait Gustave Moret, il restait un petit peu plus bas. Puis Yann Maisan, Kenman, le frère de mon père. Mais nous autres, tant qu'on est de cela, on était les seuls qui étaient résidents là à Lille. Les seuls, la dernière famille qui était collée de Lille. Puis moi, après ça, ben. Alors, j'avais eu 13 ans dans le mois d'août, puis dans le mois de septembre, on était de l'Ontario, à bûcher dans le bois, là, avec la grand-scie. On était quatre, par ici. Ben, j'ai commencé à pêcher, moi, j'avais un 15 ans avec mon père, à bord du bateau. J'avais un 15 ans, puis j'étais à bord. Et il ne voulait pas m'emporter, ben, je suis allé dans l'eau, ce qui est ici, puis je broyais, puis y allais. Ben, ah, voyons.
Vous pêchiez quoi?
La morue.
La morue?
La morue, le maquereau, l'argent. C'est dans la belle chaleur, hein. J'avais un petit bateau.
Aviez-vous une ferme aussi? Est-ce que vous aviez des animaux puis une ferme? Ou...
Ah, ben oui, à Lille, ben oui, on avait des animaux. On avait un cheval, on avait tout un, une vache, des fois deux, des cochons, des poules. On va dire qu'ils disaient, on participait de nourriture, avec des quoi en masse. Puis on cultivait des navots, des patates, n'importe tout. On avait deux. Une cave de dehors, ça c'était de bien plein, on ouvrait rien que sur le printemps. C'était condamné pour l'hiver. On en avait deux. Une, on va dire, la première, il allait là, c'est à peu près jusqu'au mois de décembre, là. Ça, il y avait des petites patates là-dedans pour le cochon, puis tout ça. Puis après ça, ben, elle a été vidée, puis il y avait un autre plus loin, dans le bord du bois. Ça rouvrait rien que sur le printemps. Il y avait des navets là-dedans, puis il y avait des choux, il y avait des carottes, il y avait des patates. Tout était là-dedans. Ça, c'était pour l'année, pour l'été. On attend l'autre culture, le printemps, l'automne. Dans le temps, là, il était 16 à la maison. La famille de ma grand-père, puis la famille de mon père, était 16 sur ce coup, à la maison. Les oncles, puis il y avait juste une fille, par exemple, ma tante Bernadette. Puis il y avait mon grand-père, ma grand-mère, puis il y avait les autres. Il y avait mon oncle Joe, il y avait Alphonse, il y avait Mador, puis il y avait Pierre, puis il y avait Papa, puis il y avait Maman, puis il y avait les enfants, je ne sais pas comment, il y avait 3-4 enfants. Ça, l'île, là, ouais. Il y en a un temps qu'il y avait 17 familles dessus. Parce qu'on voyait des trous, des fondations partout, là. Ben, ça poussait, le bois poussait. L'île, c'était bien plus gros que ça, bon, ça, là. Mais moi, étant juste là, on était juste quatre. M. de Robert, puis nous autres, puis Gustave Moret, puis mon Kenman. Il y avait quatre maisons là-dessus. Avec le bateau, on venait au quai. Dimanche, on allait à la messe à Caraquet. On allait à la messe, on traversait le bateau. Dans le temps de Saint-Anne, on montait à Saint-Anne avec le bateau. On y allait à la neuvaine de Saint-Anne. Ben, l'hiver, c'était à pied. sur la glace. Non, avant ça, il y avait les 40 heures. Vous avez entendu parler des 40 heures? Il y avait les 40 heures. Ça, ils faisaient ça à 6 heures le matin, à l'église Saint-Pierre. Nous autres, on décollait de l'île à pied pour passer en travers, pour monter à l'église, qui est dessus à glace. Puis pas habillé comme à cette heure, là. On n'avait pas de skidou, on n'avait pas de 4 roues en temps. On avait des moteurs à crotte, à joual.
La petite école?
Hein?
La petite école?
J'ai jamais été à l'école. Mais jamais assis, c'est pas d'école. Mais.
Jamais de votre vie?
Jamais de ma vie. Mais jamais assis, c'est pas d'école. Si je m'assis, c'est pas pour étudier sur terre. Ben moi, je commence à pêcher à l'âge de 11 ans, puis il n'y avait pas d'école à l'île. Faudrait que je revenais à l'école de ce côté-ci. Okay. Il y avait moi, puis il y en a mes frères, deux qui portaient l'école. Moi, puis Jean-Baptiste, c'est deux plus vieux. Moi, je suis le premier, puis il y en a une de morte entre moi et Jean-Baptiste. Mes autres, ils ont monté le compte tant qu'ils étaient de ce côté-ci.
Ah, OK.
Il y en a un qui était un peu rongé, là. Tant qu'on commence là, ils ont commencé à garder un. Il y en a un qui était rongé un peu, là. Mm-hmm. Mais nous autres, on était trop vieux. Trop vieux pour commencer ça. Et je veux dire, cette cour, on va dire, qui m'a manqué. À cette heure, ça me manque. Ça me manque beaucoup à cette heure. Avant ça, ça ne me dérangeait pas. Parce que ça me manque beaucoup. Pour moi, dans le temps que j'étais allé, c'était tous des beaux souvenirs. À cette heure, on tombe jeune, là, puis il dit, tu vas aller rester allé, je dirais oui. Tout de suite. Avec toute la commodité qu'il y a, tu peux avoir l'électricité, tu peux avoir la télévision, tu peux avoir le téléphone, l'été, des beaux gros bateaux, l'hiver, des skidoux, des quatre roues. Il n'y a pas la plus belle place pour ça, pour vivre. Tranquille.
Puis sur l'île, il n'y avait pas de maringouin, là.
Non, le calvaire. On ne sent pas. Ah oui, il y en a.
Aviez-vous entendu parler de cette histoire-là, le meurtre qu'il y avait eu sur l'île?
Oui, c'était le droit de clôture chez nous. Ma grand-mère a venu nous montrer la place. Tout au roi de clôture. Il a poussé, je ne sais pas de sorte d'arbre que c'est, ça menait pas haut. Ces petits arbres-là, ça menait à peu près comme deux pieds et demi de haut. C'était bien rouge. Une plaque d'arbre.
Ah oui. Exactement la place où
la même place que le bonhomme avait tatoué, là.
Ben voyons.
Les arbres de bien rouge. Ces petits arbres-là. Okay. La vraie, pas même la couleur du sang, là, bien rouge. Ben ça, on ne peut plus les voir parce que c'est tout mangé, c'est rendu à la mer.
OK, donc l'île a rapetissé, là,
ben
avec
oui,
l'érosion.
L'île a rapetissé, okay. Ben oui, l'île a rapetissé beaucoup.
OK.
Puis elle a rapetissé, parce que dans le plus large de l'île, c'était là, il y avait tout bien. Dans le plus large de l'île, il y aurait dû avoir comme trois quarts de mille, tout bien. Mais ça, il reste bien 200-300 verges. Ouais. Elle va défoncer là, plus haut, là, entre la lettre, là, le bout de... Elle va défoncer là parce qu'il y a deux marécages, deux prés. Il y en a en dehors puis il y en a en dedans. En nord du sud. Puis là, la mer.
Ça va se rejoindre.
Ça va se rejoindre. Puis c'est pas loin, là. Parce que la dernière fois que j'étais à l'île, j'ai gardé sur l'autre bord, puis sur ce bord-site. Et je te dis qu'il n'en reste pas loin entre les deux. S'il ferait une grosse tempête avec des grands marées, ça va se rejoindre. Tu n'avais pas toutes les arbres à terre, ben l'eau. L'eau va s'en rejoindre. Le soleil toi, qui se lève le matin, là, quand tu es sur la mer, il fait beau. Là. C'est tout beauté.
Ah oui. Ah.
Tu vois ça, la rougeur, là. Il n'est pas sorti encore là. Tu vois juste une rougeur. Là. C'est tout beauté.
Histoire de la côte est un balado du Théâtre populaire d'Acadie en collaboration avec la ville de Caraquet. Les textes sont tirés du recueil de l'auteur J. Antonin Friolet, Caraquet, village au soleil, publié à compte d'auteur en 1978 et réédité, toujours à compte d'auteur, en 1980 et en 1994 sous le titre Voici Caraquet. Nous désirons remercier Mme Marie-Gabrielle Durand-Foxenay, épouse de feu J. Antonin Friolet, de nous avoir accordé le droit d'utiliser ses récits. Nous remercions également Mme Aline Landry, agente de patrimoine à la ville de Caraquette, pour sa précieuse collaboration. Nous voulons souligner que les terres mentionnées dans ces histoires et sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui font partie du territoire ancestral non cédé de la nation Mi'kmaq. Lecteur, Ludjé Beaulieu. Historien, Clarence Le Breton. Invité, M. Jean-Eudes Viennot, ancien habitant de l'île de Caraquette. Prise de son pour la voix de Ludjé Beaulieu, Jonathan Saunier. Prise de son pour les voix de Ghislain Basque et de Alain Roy, Dennis Morton. Mise en ligne et conseillère à la réalisation, Noémie Lavoie. Enregistrement, prise de son, musique, environnement sonore et montage, Jean-François Mallet. Réalisation, Alain Roy et Ghislain Basque.